l'événement sportif, en tout cas, tout sport confondu, ça peut pas être, de notre point de vue à nous, en tout cas, là, ça peut pas être autre chose, selon moi, que le match entre les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston. Et je voulais en discuter avec un spécialiste de basketball, celui qui décrit la plupart des matchs en alternance avec Alexandre Tourigny au Réseau des Sports, Mathieu Jolivet, que vous connaissez, que vous avez déjà entendu. Ça, bonsoir les sportifs. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Mario, merci pour l'invitation.
Ben, ça me fait plaisir. Es-tu excité? Là, je sais que c'est pas toi qui décris le match parce que vous avez un principe d'alternance ce soir, mais vas-tu regarder ça en studio? T'es bien installé à la maison pour savourer ça, là.
Non, je vais avoir un petit verre de vin dans les mains à la maison pour regarder ça parce que j'avoue que je suis un peu nerveux. Si j'avais à mettre un petit 2 sur le match, là, mon premier instinct, ce serait probablement pour les Celtics. Je veux pas du tout être rabat-joie, là. C'est vraiment mon point de vue le plus réaliste possible. Je pense que les Celtics ont été un peu meilleurs dans cette série, des joueurs un petit peu plus jeunes, parce qu'on s'entend que se remettre d'un match en double prolongation en 48 heures, ça prend des jambes fraîches et des joueurs un peu plus jeunes. Mais en même temps, gager contre les Raptors après ce qu'ils ont montré au match numéro 6, ça serait quand même audacieux. Alors, je dis pas pile ou face, là, mais presque pour ce soir.
C'est bien résumé parce que, dans le fond, quand tu regardes les 3 victoires des Raptors dans cette série-là, il y en a eu une qui n'était pas à l'arraché. Là, la dernière, évidemment, deuxième prolongation. La première, on se souvient du Ananobi, là, OG Ananobi, qui sur la passe, magnifique passe de Kyle Lowry. Donc, ça a été 2 gains à l'arraché, un autre possible. Mais les Celtics semblent contrôler l'allure, le tempo de beaucoup de matchs et le pointage du côté des Raptors ne semble dépendre que de quelques joueurs. La contribution autour de Lowry est inégale, Mathieu.
Oh, absolument. Écoute, moi, avant la série, je pensais que les Raptors avaient un avantage au niveau de la profondeur parce que toute la saison, l'entraîneur-chef Nick Nurse avait 8, 9, 10 joueurs à sa disposition. Puis c'est pas exactement le cas pour Boston. Mais là, ce qui arrive, c'est que il a rapetissé sa rotation, il y a des joueurs à qui il ne fait plus confiance, et parmi les joueurs fiables en temps normal, surtout Pascal Siakam, il y a des gars qui ne livrent pas tout à fait la marchandise. Donc, effectivement, je regarde ça puis je me dis, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux Raptors dans ce genre de match-là? Ceci étant dit, c'est probablement Kyle Lowry le meilleur joueur de la série. C'est lui qui a fait le plus de gros jeux, c'est lui qui se sacrifie soir après soir, c'est lui qui mène, c'est le cœur de cette équipe-là, et c'est lui qui a un peu sauvé l'équipe au match numéro 6. Oui, il y a eu Norman Powell, il y a eu des bons moments pour Van Vliet, un petit peu Gasol, un petit peu Ibaka, mais à la base, cette équipe-là, c'est Kyle Lowry. Alors, si Lowry sort un autre de ses gros matchs ce soir, on sait jamais. Je pense pas que les Raptors vont se faire surclasser. Comme tu dis, en regardant l'ensemble de la série, les Celtics, quand ils ont gagné, l'ont fait de façon dominante. Puis les Raptors, quand ils ont gagné, ça a été extrêmement serré.
Mais Lowry, je m'attends au même genre de performance. Honnêtement, Mathieu, je pense que c'est pas mal. T'sais, bon, tu peux pas prédire le nombre de points qu'il va inscrire, là, mais tu sais que l'intensité, la vivacité, là, il va être là dans ces deux bords du terrain. Mais en termes de contribution, ça prend au moins 20 points de Siakam ce soir, là.
Ah, 100%. Siakam, pour les joueurs qui suivent sa carrière, a commencé très lentement. C'était un choix de première ronde, mais en fin de première ronde, personne avait de grandes attentes sur sa carrière. Jouait presque pas en début de sa première année avec Toronto. Ensuite, deuxième année, on a découvert un talent brut, on pouvait l'utiliser comme réserviste. Et là, troisième année, devient un partant. Quatrième année, un joueur tout étoile. Et là, en ce moment, il est à son plus bas en carrière, même si c'est quand même encore une jeune carrière, en termes de confiance. On l'a vu tout au long de la série, il n'est pas à l'aise, il finit pas ses lancers, il réussit aucun tir de 3 points, même quand il attaque l'anneau, souvent, il est proche du panier puis ça rentre pas. Si Siakam te sort un autre match comme il a fait au match numéro 6, j'ai pas,
ils sont dans le
comme
trouble.
Quoi, une grande confiance par rapport à ce soir, parce que c'est bien beau demander à Kyle Lowry, qui est dans la mi-trentaine et qui mesure 6 pieds, de tout faire, mais à la base, le match de ce soir, il va devoir avoir 5 grosses performances individuelles des Raptors, selon moi.
Parce que, tu sais, on parle souvent ici au hockey du fait que le Canadien, un petit club, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Mathieu, pour dire que Toronto, en tout cas, quand tu regardes son noyau, a un petit club, tu sais, quand t'as 2 partants qui sont autour de 6 pieds, Van Vliet, t'es à peu près quoi, 6 pieds, 1 demi-pouce autour?
Oui, ben Van Vliet n'est pas vraiment plus grand que Lowry, t'as raison.
Fait que, tu sais, quand ces deux gars-là veulent créer de l'attaque, c'est des gars qu'il faut qu'ils aillent par en dessous de du panier, en quelque sorte. C'est difficile pour eux, là, devant des gardes de 6 pieds 5, 7 pieds, là. C'est très difficile. Puis là, ben, à un moment donné, ils se mettent à lancer de loin, puis là, ils tombent dans... Honnêtement, j'en reviens même pas comment ça se fait qu'ils ont réussi à provoquer le match numéro 7, Mathieu.
Ouais, je suis d'accord avec toi. La marge de manœuvre de Toronto est minuscule comparée à celle de Boston, parce que quand on regarde les deux équipes, les deux des trois meilleurs joueurs de Boston, c'est Jason Tatum et Jaylen Brown. C'est deux ailiers de 6 pieds 7 environ, 6 pieds 8, ultra-athlétiques, qui sont capables de créer des tirs de toutes sortes de façons, alors que les deux joueurs les plus productifs en attaque dans la série pour Toronto, c'est des joueurs de 6 pieds. Donc, c'est beaucoup plus facile de les ralentir ou tenter de bloquer leurs tirs autour de l'anneau. Ceci étant dit, les Raptors ont des grands joueurs qui peuvent, autour de l'anneau, de temps en temps se manifester, surtout Ibaka et Gasol. Mais au dernier match, Nick Nurse a fait quelque chose d'assez audacieux. Il a mis ses deux plus grands joueurs sur le banc pour toute la fin de rencontre. Fin de quatrième quart, prolongation 1, prolongation 2. Il est allé avec une formation beaucoup plus petite. Siakam était essentiellement le centre. Donc, c'était tous des joueurs de 6 pieds 8 et moins. Et ça a fonctionné. Nick Nurse connaît son équipe mieux que n'importe qui, évidemment. Et le pari a été bon parce que là, ces joueurs comme Powell et tout ça qui ont fini en force ont donné à Nick Nurse ce qu'il avait besoin. Mais là, on a demandé à ces gars-là de jouer presque 50 minutes chacun. C'est un peu la même chose pour les Celtics. C'est pas comme si les Celtics allaient être frais comme une rose ce soir et les Raptors allaient être fatigués.
Non.
Mais la marge de manœuvre, je suis d'accord avec toi, pour les Raptors, est beaucoup plus petite.
J'ai pas analysé cet aspect-là des stats, mais du côté des tirs de trois points, Mathieu, depuis le début de la série, dirais-tu qu'il y a une équipe qui a l'avantage sur l'autre ou ça dépend des matchs?
Ben, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe qui a le mieux tiré à trois points à chaque soir a gagné le match. Puis c'est un peu vrai de la NBA en général en ce moment.
Ouais,
en général,
ouais.
Si on a comme les Rockets de Houston qui réussissent 20 tirs de trois points dans un match, ils vont battre les Lakers. Mais c'est sûr que ce jeu-là est dangereux parce que dès qu'on a une soirée plus tranquille ou qu'on est moins précis, ben on est dans le trouble. Alors qu'il y a d'autres clubs qui peuvent se rabattre sur leur défensive, qui peuvent avoir des Kawhi Leonard qui marquent 30 points en réussissant surtout des tirs de 12, 14, 16 pieds. Mais dans la série, si l'équipe qui a le mieux tiré a tout gagné. Donc Toronto a été horrible à 3 points en première demi au match 6 et a été fantastique en deuxième demi et en prolongation. Veux pas, là, dans la NBA, on peut décortiquer ça de 46 façons. Mais si tu réussis de gros tirs, t'as des chances de gagner. Puis si t'en rates plus que t'en réussis, tu vas probablement perdre. Et la quantité de gros jeux au match 6, c'était hallucinant. Ça fait quelques années que j'en décris à RDS des matchs. Et c'était la rencontre où j'ai eu le sentiment que le plus de gros tirs difficiles dans des moments cruciaux ont été réussis d'un côté comme de l'autre. Ça y allait dans les deux sens. S'il y a le moindrement ça ce soir, là, je pense que le match numéro 7 là, qu'on va présenter va être assez mémorable.
Oui, j'espère que ça va être relevé. Rendu au match numéro 7, là, c'est sûr que ça serait bien étonnant que ça parte vers une domination d'une équipe sur l'autre, mais on ne sait jamais. Mais on parlait du pourcentage, ou en tout cas du pourcentage de réussite, puis il y a une statistique que j'aimerais voir plus souvent pendant la diffusion d'un match, autant à TNT en anglais ou à RDS, ou peu importe, là, c'est que on le voit souvent quand on a la fiche individuelle d'un joueur, donc on sait il est combien en combien. Exemple, Siakam avait vraiment une piètre performance, son pourcentage était très faible au dernier match, mais autant collectivement une équipe, c'est quoi le pourcentage d'efficacité dans la ligue, mettons les meilleurs pourcentages, puis la moyenne, là, combien de tirs tu peux rater en moyenne pour être une bonne équipe pareille?
Ben écoute, un joueur qui joue surtout à l'intérieur, qui peut être plus proche du panier, qui va tirer souvent à 10 pieds et moins, lui on lui demande d'être à 50%, parce qu'évidemment 50% ça n'a pas l'air énorme, mais avec tu essaies de tirer par-dessus un gars qui mesure 6 pieds 8, pieds 10, 7 pieds comme toi, ben c'est pas évident. On lui demande 50%. Des gars qui sont autour du périmètre, comme Lowry, Van Vliet et compagnie, si tu tires à 40% à 3 points, là, ça commence à être vraiment intéressant. Évidemment, il y a des spécialistes, là, ils ont perfectionné les tirs de 3 points au fil des ans. Là, c'est plus la même ligue que c'était il y a 20 ans quand Michael Jordan et compagnie étaient en fin de carrière. Donc les matchs se finissent avec des 110, 120, 130 points souvent, mais je dirais que 40% là, collectivement, là, c'est un bon chiffre. Si les Raptors sont proches de ce chiffre-là ce soir, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être serré du début à la fin. Puis s'il y a une équipe qui se distance de l'autre, ben malheureusement, ça serait probablement plus Boston qu'ils l'ont fait dans cette série, alors que les Raptors en général n'ont pas été capables de prendre des avances de 15 à 20 points.
Le début du match, là, c'est ça, il se place souvent en situation de rattrapage dès le départ. Alors, j'ai très hâte de voir les premières minutes du match. Et c'est vrai que c'est intéressant de regarder les dernières minutes parce que c'est là que toute l'intensité se trouve. C'est là que ça culmine, mais le match commence à se dessiner bien plus tôt que lors de ces moments-là. Je voudrais finir avec Kyle Lowry, puis je voulais avoir ton impression, Mathieu. C'est un gars que je regardais jouer dans le duo qu'il composait avec DeRozan, notamment. Puis après ça, on lui a enlevé DeRozan, son pote. On lui a donné Kawhi Leonard. Là, il n'y a pas de gros Top Gun à côté de lui. Il y a des gars qui ont le potentiel d'eux, mais comment tu comparais ces trois versions-là de Kyle Lowry, là, DeRozan, Leonard et maintenant, je dirais pas tout seul, mais moins entouré en quelque sorte. Est-ce qu'il sort son meilleur en ce moment ou il a joué mieux que ça?
Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur Kyle Lowry quand on regarde sa carrière du début à la fin, puis elle n'est pas encore finie, là, mais de A à Z. Parce que c'est très rare qu'un joueur, surtout qui mesure 6 pieds comme lui, va arriver à devenir un joueur étoile, invité au match des étoiles à partir de sa 6e, 7e, 8e saison. D'habitude, on sait beaucoup plus vite dans la carrière d'un joueur s'il va être un morceau dominant important ou s'il va être un joueur de soutien. Et Kyle Lowry, pendant les 7 premières saisons de sa carrière, il s'est promené à quelques reprises, on pensait que ça allait être un joueur de soutien. Il a découvert quelque chose autour de 28 ans à peu près. Il a commencé là à devenir un joueur étoile. Avec DeRozan, il y avait une belle complicité. Les Raptors finissaient souvent top 4 dans l'Est, mais n'arrivaient pas à être dominants en série. DeRozan ne pouvait pas amener les Raptors plus loin que ce qu'il faisait. Évidemment, quand Kawhi arrive pour une saison l'an dernier, c'était parfait. Parce que là, tout d'un coup, on demandait à Kyle de faire toutes les choses dont tu parlais tout à l'heure, des charges offensives, être un leader, être un joueur défensif, marquer une vingtaine de points à l'occasion. Mais on n'avait pas besoin de sa grosse contribution parce que c'était Kawhi 1, c'était Siakam comme deuxième meilleur marqueur, puis Lowry pouvait faire toutes les choses complémentaires. Là, cette année, quand Kawhi part...
En 10 secondes, Mathieu, je m'excuse de te bousculer.
Oui, il n'y a pas de problème. Lowry a pris vraiment un rôle que je ne croyais pas qu'il était capable de faire. Alors, je pense qu'il va être à 100% présent ce soir. Est-ce que les Raptors ont assez de ressources? Autour de 21h15, la RDS, on va commencer à avoir des réponses.
Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Bonne soirée.